Bonjour à tous, bienvenue dans le live de Radio Éthique. Nous sommes ensemble pour une heure plongée au cœur de la biodiversité marine. Voici 12 ans que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 22 mai, Journée internationale de la diversité biologique. Nous sommes en direct du Musée océanographique de Monaco et nous allons bien évidemment nous pencher tout particulièrement sur la biodiversité marine avec Pierre Frola, recordman du monde d'apnée, Pierre Gilles, aquariologiste, Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II, Denis Allemand du Centre scientifique de Monaco qui travaille sur la préservation des coraux et Patrick Piguet, le directeur du patrimoine de l'Institut océanographique de Monaco. Et puisque l'on protège mieux ce que l'on aime et que pour aimer, il faut connaître, chaque invité nous présentera une espèce qui lui tient particulièrement à cœur. Mais puisqu'il est notre hôte aujourd'hui même, s'il n'a pas pu être parmi nous, Robert Calcagno, le directeur du musée océanographique, a tenu à nous dire quelques mots sur cette journée particulière et sur le lien étroit qu'entretiennent l'art et la science au sein du musée.
La journée de la biodiversité est effectivement une journée importante et aujourd'hui elle a tout particulièrement comme thème la biodiversité marine et donc le musée océanographique est au centre de cette problématique. Peut-être ce que je souhaitais effectivement indiquer, c'est que ce type de journée, c'est très très bien parce que ça donne un rendez-vous annuel qui nous permet de nous retrouver, de faire le point sur les actions. Maintenant, ce qui est surtout important, c'est de se préoccuper de la biodiversité et en particulier de la biodiversité marine tous les jours de l'année. Et le musée océanographique et l'Institut océanographique, ça fait plus de 100 ans que nous travaillons sur ce sujet, c'est au cœur de nos missions et le fait de connaître les océans, de les faire apprécier et de protéger les océans et leurs habitants, la biodiversité est centrale dans le cœur de nos missions.
En plus des collections permanentes de l'Institut océanographique, le musée accueille depuis le 12 mai une exposition temporaire de l'artiste anglais Mark Quinn, une exposition inspirée du musée lui-même d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Le musée, dans sa mission de connaissance et de protection de la biodiversité, a plusieurs outils, a plusieurs cordes à son arc. Et dès 1910, le prince Albert Ier a inauguré le musée pour que ce soit un outil au cœur de ses missions, mais un outil qui utilise les deux médias centraux, la science, bien sûr, mais également l'art, pour faire avancer les civilisations dans le bon sens. Je le cite, j'ai voulu rassembler dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science. Il y a une trentaine d'années, le commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, qui a été pendant plus de 30 ans le directeur du musée océanographique, a mis cette volonté également au cœur de ses préoccupations en étant non seulement un explorateur reconnu, mais en étant également un cinéaste, un réalisateur, et c'était donc le septième art qu'il utilisait. Or, depuis effectivement l'année du centenaire du musée océanographique 2010, le prince Albert II nous a demandé de redonner de la vie au musée océanographique et de renouer avec ce passé glorieux qui conjuguait l'art et la science. Et c'est ce que nous avons fait avec l'exposition d'Amherst en 2010, en accueillant l'artiste franco-chinois Wang Yongping pour l'immense poulpe Wutsai, ou en travaillant avec l'artiste américain Mark Dion pour mettre en place cet immense cabinet de curiosité, le plus grand cabinet de curiosité du monde marin que nous appelons Océanomania. Et puis donc, depuis quelques jours, cette exposition Mark Quinn que nous avons intitulée « The Littoral Zone », la zone littorale, qui met en exergue ces lieux d'échange entre les océans et la terre, entre l'art et la science, entre la vie et la mort, et entre le musée, le patrimoine et la modernité.
Le patrimoine et la modernité, donc ici réunis au musée océanographique de Monaco. On remercie Robert Calcagno qui nous invite donc ce soir. Notre premier invité est surnommé le pirate des abysses en raison de son engagement pour la protection des mers et bien sûr pour ses titres de recordman du monde d'apnée. 3 recordman en immersion libre et une fois en poids variable, si je ne m'abuse, c'est Pierre Frolla, le plongeur de l'extrême. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Donc au niveau des titres, j'ai tout bon ?
Oui.
J'ai rien oublié ?
Ouais. Pour les titres mondiaux, oui, c'est impeccable.
Robert Calcagno nous parlait à l'instant donc, du lien entre le patrimoine et la modernité. Vous avez déjà visité l'exposition Mark Quinn ?
Oui, qui a été inaugurée récemment et qui effectivement, comme l'expliquait très justement monsieur le directeur du musée océanographique, vraiment très très original et qui lie plein de choses différentes, aussi bien effectivement des thèmes contemporains que des thèmes, on pourrait dire même archaïques, sur le thème du littoral. Et c'est vraiment très joli.
Alors avant d'aborder votre actualité, un point sur le lien étroit qui vous lie à la mer, et ça depuis très longtemps, puisque vous avez tout juste 23 ans lorsque vous battez votre premier record d'apnée en 1998. À quand remonte votre passion pour le milieu marin et puis à quoi elle tient ?
Elle tient à la famille en fait, parce que mon père faisait partie de l'équipe monégasque de plongeons en apnée dans les années 60-70. Il nous a inculqué avec mon frère cette passion. En même temps, il a essayé de nous retenir de ne pas trop aller à la mer parce qu'on était petits et c'était dangereux. Et donc, il y a un mélange mystique entre le désir de découvrir ce que l'on essaye de nous cacher au fond de la mer, le désir de découvrir des choses qui sont surprenantes. Et je pense surtout la mer, c'est le dernier endroit sur Terre à l'heure actuelle où on vit réellement en pleine nature, avec de vrais animaux sauvages. Et je pense que tout petit, avec mon frère, on en a eu conscience très très vite, ce qui a fait qu'on a voulu plonger au quotidien.
Et depuis, vous n'avez donc pas arrêté, puisque vous êtes devenu un sportif emblématique de votre discipline, mais vous êtes en même temps pédagogue, et à travers l'école de plongée que vous avez créée, vous essayez d'enseigner et de partager donc à la fois cet enthousiasme, mais aussi cette rigueur.
Et bien, en fait, moi, j'étais parti pour devenir enseignant. J'étais à la fac des sports de Nice pour être enseignant, alors d'une part en EPS, activité physique et sportive, et moniteur de plongée. Il s'avère qu'à force de m'entraîner, je suis devenu très très fort en apnée et j'ai pu vivre une carrière sportive qui m'a permis en même temps de préparer ma reconversion au quotidien, grâce à mon équipe notamment, et avec plein de soutien, notamment le musée océanographique qui m'a toujours soutenu en fait depuis le tout début, aussi bien le gouvernement monégasque que le musée océanographique. Et j'ai réussi en même temps que je m'entraînais à devenir un enseignant, alors d'abord un encadrant, puis un enseignant, afin de pouvoir trouver réellement ce que je voulais faire et créer cette école qui s'appelle l'École Bleue, qui existe maintenant depuis 2002 à la plage du Larvotto.
Alors quelques mots justement sur cette école, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors c'est un objectif bien précis, on accueille les enfants à partir de 8 ans, mais on accueille aussi les adultes, mais à partir de 8 ans on sensibilise les enfants par le biais de la plongée à la faune et à la flore méditerranéenne. On va utiliser la plongée bouteille, la plongée en apnée, la randonnée palmée, mais aussi les balades en bateau, pour faire des actions concrètes de recensement de micro-espèces, parce que ce sont des enfants, donc il est plus facile de compter des castagnoles que des dauphins, des opérations de nettoyage, et surtout les sensibiliser à ce qui, à mon sens, est la chose la plus importante à cet âge-là, c'est l'éco-citoyenneté. C'est, à notre avis, le gage de l'avenir. Et comme c'est une génération en devenir, c'est, je pense, le bon moment pour faire ça. Et ça marche très, très bien. Ce sont des stages d'une semaine et on a énormément d'enfants.
Vous avez également un projet de film que vous tournez en ce moment. C'est le projet Okeanos.
Difficile à prononcer. C'est du grec.
Et ça veut dire ?
Océan.
Tout simplement,
oui. Qui est la base de tout, à mon sens. C'est de là que, vraisemblablement, la vie est arrivé sur Terre, et nous, on y replonge tout le temps. Projet Okeanos, c'est un projet de 6 films. L'épisode 1 a été tourné l'année dernière en Égypte. Il met en scène des enfants de 8 à 12 ans qui vont à la rencontre des grandes espèces marines pour les observer, les recenser, les comptabiliser, et ensuite rendre compte à leur père, c'est-à-dire à des enfants de leur âge, et leur expliquer en fait ce qui est important, comment on les protège. Alors d'abord ce qu'on voit et puis ce que l'on peut faire pour les protéger. L'épisode 1 a été tourné l'année dernière, c'est un 26 minutes. Et désormais, on est en tournage pour l'épisode 2, notamment grâce à la Fondation Albert II, qui nous soutient très 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 activement pour ce projet. On amènera les mêmes enfants qui ont grandi depuis. On va partir avec eux à l'île de la Réunion fin août, début septembre, pour partir à la rencontre des baleines à bosse, qui sont dans un endroit bien précis et qui viennent pour se nourrir, mettre bas, ou permettre et apprendre à leurs petits à se nourrir aussi, hein, et à survivre, à respirer en surface, à nager. Et donc les enfants vont devenir de réels ambassadeurs, et on va organiser avec eux toute une campagne de conférences, aussi bien orientée par le biais de ce film, en fait, hein, qui sera à 52 minutes, qu'une exposition photo, mais surtout des conférences dans les écoles et peut-être même dans les universités avec des enfants de 8 à 12 ans.
Et quel âge ont ces enfants maintenant ?
Et donc, ben, ils ont tous pris un an. Hein, donc, ceux qui avaient 8 ont 9, ceux qui ont 10 ont 11, et ainsi de suite. J'ai été terrorisé parce que ça faisait un mois que je n'avais pas vu Clément, que l'on appelait le petit Clément, qui est venu me voir tout à l'heure parce qu'il y avait la journée mondiale de la biodiversité. Et on était très actifs aujourd'hui à l'école bleue, au Larvotoy, avec la MPN. Et donc, Clément est arrivé et c'est un adolescent.
Et le petit Clément est devenu un grand Clément.
Et oui, et donc c'est plus un enfant, mais c'est très très intéressant parce que son regard change, son moyen d'élocution va changer aussi, et certainement sa motivation et son regard tout simplement. Donc ça va être vraiment très très hétéroclite en fait comme approche, et ça peut être vraiment très très intéressant.
Vous qui avez l'occasion de plonger dans des endroits où quasiment personne ne met les pieds, est-ce qu'il y a des marques de pollution particulières qui vous frappent, qui vous choquent ?
Je dirais que ce qui me choque le plus, c'est vraiment l'incivisme, qu'il soit volontaire ou pas. C'est le fait de retrouver comme suite à des journées comme hier ou avant-hier où il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de mer et beaucoup de pluie, énormément de macro-déchets à la mer ou sur le bord des plages, qui au final ne sont pas très... ça n'est pas énormément alarmant, parce que le macro-déchet, c'est peut-être l'élément polluant le moins dangereux. Par contre, on sait que quand les égouts débordent, près des agglomérations, à un moment, les vannes s'ouvrent et tout part à la mer. Et ça, c'est vraiment inquiétant, même si on ne le voit pas. Je pense que c'est le recul de la biodiversité qui est alarmant. C'est-à-dire qu'au sein d'un même endroit où il y avait théoriquement énormément d'espèces, il y en a de moins en moins. Nous militons activement, ou nous sommes très actifs sur la protection du requin, notamment, avec quelques équipes. Aller dans des endroits où il y a quelques années encore, il y avait énormément de requins, et là où il n'y en a plus maintenant, c'est vraiment un impact très très important sur la biodiversité, et ça n'est pas forcément de la pollution, c'est simplement l'action de l'homme, qui est à ce moment-là un élément polluant énorme.
Et donc, puisque pour protéger la nature, il faut l'aimer, et que pour aimer, il faut connaître, chaque intervenant, ce soir, aura choisi une espèce pour nous faire un petit clin d'œil, pour peut-être nous faire partager son coup de cœur. Le vôtre, c'est les requins, justement.
Oui, alors désolé si quelqu'un d'autre le voulait.
C'est pris, ça y est, c'est pris.
Premier arrivé, premier servi. Le requin, en fait, c'est ma chimère. Je suis né en 1975, c'est l'année de sortie des Dents de la Mer. Donc je ne fais pas du tout partie de la génération du Grand Bleu, comme on pourrait croire, mais plutôt des Dents de la Mer. J'étais terrorisé par les requins. Et j'ai vécu un paradoxe pendant toute mon enfance, parce que je voulais aller à la mer tout le temps, je voulais être seul, mais en même temps j'avais peur de rencontrer des requins. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, à aller en grande profondeur, je n'étais plus du tout accompagné, parce que la sécurité se fait d'une façon un peu différente en plongée profonde, j'étais confronté à ce problème, la crainte de rencontrer des requins. Donc il a fallu un moment que je fasse un choix, et le choix, ça a été, comme j'ai un tempérament de fonceur, c'est de découvrir si cet animal était réellement ce que l'on disait qu'il était, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est devenu une réelle passion. Et c'est un animal qui représente énormément de choses que j'aime dans le tempérament, dans la façon d'être. C'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est quelqu'un qui fonce. C'est une créature qui est au sommet de la chaîne alimentaire, mais qui ne le sait même pas. Donc qui est très fragile parce que très puissante. Et en plus, c'est majestueux. Donc, tout ce mélange a fait que je vous ai piqué votre animal. Il est à moi ce soir.
Vous avez également choisi une chanson. Hein, c'est le jeu aujourd'hui. Oui. Les Beatles.
Tout à fait. C'est un petit clin d'œil. Eh bien, parce que j'ai attendu 37 ans pour découvrir les Beatles, n'est-ce pas ? Je suis vraiment désolé. Et c'est effectivement fabuleux. Donc, c'est un clin d'œil à Laetitia, ma petite amie, qui adore les Beatles. Something in the way she moves attracts me like no one.
asking me.